Le Défenseur des droits est une institution pour la défense et la promotion de vos droits. Une institution indépendante de l'État qui défend les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permet l'égalité de tous et de toutes dans l'accès aux droits. Son représentant national est aujourd'hui Monsieur Jacques Toubon et il est représenté sur le territoire par des délégués au Défenseur des droits. Dans la Loire, ils sont 5, dont Monsieur Albert Thibault que nous avons rencontré sur Radio Ondaine 90.9 FM ou www.radio-ondaine.fr.
Donc, je m'appelle Albert Thibault, je suis délégué du Défenseur des droits depuis plus de 10 ans. Avant, j'étais délégué du Médiateur de la République. Et lorsque cette institution a été intégrée au Défenseur des droits, je suis devenu délégué du Défenseur des droits.
Alors, qui est le Défenseur des droits? Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre-là?
Alors, le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante. Le mot indépendant est important, c'est-à-dire qu'il ne dépend de personne. Et c'est inscrit dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 et dans une loi organique du 29 mars 2011. Actuellement, le défenseur national des droits, c'est M. Jacques Toubon. Il est nommé par le président de la République avec avis de l'Assemblée nationale pour une durée maximum de 6 ans. Pendant ces 6 ans, il ne peut pas être révoqué ni mis fin à ses fonctions. Il est totalement indépendant.
Alors, M. Toubon n'est pas sur tout le territoire français, il est donc le défenseur des droits. Et vous, vous êtes un délégué, vous n'êtes pas le seul, vous êtes plusieurs. Alors, quel est finalement ce rôle des délégués, des défenseurs des droits? Et qui sont-ils, vos collègues, ici dans la Loire, pour ceux que vous connaissez, et en France?
Alors, dans la Loire, si vous voulez, il y a actuellement 5 délégués du défenseur des droits, 2 qui interviennent à Rouen, dont un au centre de détention de Rouen, une qui intervient à Montbrison à la sous-préfecture, et actuellement 2 dans la Loire, 2 à la préfecture et 1 qui fait des permanences à la prison et un autre à la maison de la justice et du droit. Voilà un peu la structure actuelle. On est en pourparlers d'avoir un troisième délégué dans l'arrondissement de Saint-Étienne parce que nous avons beaucoup de dossiers.
Alors justement, ces dossiers, on y reviendra un peu après, mais quelles sont à la base les missions du Défenseur des droits et de ses délégués?
Alors, le Défenseur des droits a été créé, comme je vous l'ai dit, en 2008, par la fusion de plusieurs organismes ou institutions. Le Médiateur de la République, la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la Commission nationale de déontologie et la Défense des enfants. Ces 4 institutions ont été fusionnées en une seule, déléguées du Défenseur des droits. Et de ce fait, tous les délégués sur le terrain sont susceptibles de recevoir les gens qui rentrent dans une de ces catégories. Soit on est en mesure de traiter parce que ça rentre dans nos compétences, soit on n'est pas en mesure ou ça dépasse nos compétences. Et dans ce cas, on envoie, nous, le dossier au siège à Paris.
Alors, ces 4 missions, vous l'avez dit, lutte contre les discriminations, des missions sur la déontologie, des représentants de l'État sur le terrain, des missions également de relationnel entre les institutions dépendantes de l'État et puis les usagers. Comment on se partage tout ça durant votre mandat, à vous, votre mission? Quelle est la proportion de chacune de ces demandes, on va dire?
Alors, déjà, il faut savoir que nous, les délégués, on est tenus de recevoir toute personne en situation légale ou illégale qui sollicite le défenseur des droits. On les reçoit, on écoute leurs problèmes, on écoute ce qu'ils ont à faire. Et soit on va les orienter vers un organisme, par exemple les PIMS, pour les étrangers qui demandent des dossiers, etc. Soit on prend leurs dossiers en compte, leurs réclamations, qui peuvent concerner des discriminations, dysfonctionnements dans des services publics ou services privés ayant délégation de services publics, tels que la CAF ou la CPM. Et dans ce cas, si on peut traiter localement, on traite localement.
Alors, comment se passe l'accompagnement d'une personne? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est un rendez-vous simple? Et peut-être, tout d'abord, comment fait-on pour vous rencontrer et vous contacter?
Alors, pour nous contacter, dans la plupart des cas, notamment dans la Loire, c'est par téléphone. On peut trouver nos téléphones sur les sites, internet, etc. Les gens prennent rendez-vous, se présentent, viennent au rendez-vous. On les écoute. Si on a besoin, on les fait revenir à un autre rendez-vous avec les documents parce qu'ils n'ont peut-être pas pris tous les documents qu'il fallait. ou alors on prend les éléments et on va saisir l'organisme concerné.
Alors c'est un accompagnement, vous réglez les problèmes, comment on définit finalement ? Est-ce que quelqu'un qui va venir ici, dans vos compétences, c'est vous qui allez régler les problèmes ou c'est vous qui allez l'accompagner et le diriger vers d'autres personnes ?
Alors pas du tout. La personne doit dans tous les cas avoir fait ce qu'on appelle une démarche préalable. Elle va écrire à la personne ou le service avec laquelle elle a des problèmes. Ce service a répondu ou n'a pas répondu, s'il a répondu à côté, etc. Nous, on prend le dossier en compte et c'est nous qui allons traiter avec le service concerné ou l'administration concernée au vu des éléments qui nous sont donnés par l'intéressé.
D'accord.
Et on peut également faire des propositions de médiation, c'est-à-dire si on réclame, mettons, une somme importante à une personne pour un trop-perçu, au vu de sa situation, on va pouvoir dire, mais écoutez, on vous propose une remise partielle la plus élevée possible, accompagnée d'un échéancier sur la base de 150 € par mois.
D'accord.
Par exemple.
Alors là, ce sont des choses palpables, entre guillemets, mais lorsqu'on va parler de discrimination, par exemple, là, ce sont plutôt des faits qui ont eu lieu, il faut avoir la personne en face, il faut aussi peut-être faire une enquête. Dans ces discriminations-là, comment ça se passe finalement ? Comment on traite le dossier d'une personne, le problème d'une personne qui est victime de discrimination, par exemple ?
Alors, pour la discrimination, c'est un petit peu plus compliqué. La personne vient nous voir, on lui fait remplir un dossier, on lui demande de le signer, puisqu'on remet en cause un service ou une personne. Et quand si elle est d'accord avec ça, nous, délégués du défenseur des droits, on va lui proposer d'essayer de trouver un arrangement amiable. Elle a un problème avec son employeur, c'est souvent le cas. Elle est révoquée ou elle a une remise quelconque qui ne convienne pas. On lui demande si elle veut un arrangement. Elle l'accepte ou pas ? Si elle n'accepte pas l'arrangement, on va l'orienter pour aller vers les prud'hommes. Mais là, nous, on n'intervient plus aux prud'hommes. On lui prépare son dossier, on lui montre son dossier. On l'oriente éventuellement vers un avocat. Mais à elle de choisir l'avocat. Mais nous, on ne gère pas, on va pas aux prud'hommes. Nous, on essaye l'arrangement amiable avec l'organisme concerné. C'est-à-dire, on va écrire à l'employeur, j'ai reçu Madame Untel qui rencontre, afin d'éviter une procédure administrative nuisible à tout le monde, est-ce qu'il serait possible de trouver un arrangement ? Alors, c'est là où on va s'engager un débat, quel arrangement ? La personne va demander 20 000 €, l'employeur en proposait 15 000, et nous, on va essayer de trouver l'arrangement amiable qui donne satisfaction à tout le monde.
Alors là, on parle d'arrangement à l'amiable, avec, vous avez cité des sommes d'argent, mais si l'on parle de discrimination, par exemple, raciale, ou d'ordre, une discrimination sur les orientations sexuelles, là, on est plus dans une idée mentale et d'une discrimination d'ordre moral. Comment on fait ?
Alors, ça va être de la même façon, si vous voulez, par exemple, on prend le cas des gens qui sont d'origine étrangère, rencontrent des problèmes là où ils sont logés. Ils sont maltraités, on leur fait des remarques, etc. Ou le propriétaire leur fait des remarques. Nous, on saisit le propriétaire ou la personne concernée. Tel jour à telle heure, il y a eu telle difficulté, telle rencontre. Est-ce que vous reconnaissez les faits ? Oui, non. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme solution amiable, toujours, pour arranger ? Faute de quoi, on est obligé d'engager une action au tribunal. Et là, dès qu'on va dans une action au tribunal, c'est plus notre affaire.
Donc ce n'est plus votre affaire, donc on n'en parlera pas. Quatre missions distinctes qui peuvent se regrouper parfois. Est-ce qu'on a une idée des proportions exactes selon les dossiers ? Qu'est-ce qui vous a été amené ? Quelles sont les personnes qui sont venues et pour quelles demandes ?
Alors la plus grosse demande, c'est les dysfonctionnements dans les services publics ou services privés ayant délégation de services publics. La CAF, les caisses de retraite, etc. Et ces demandes sont en augmentation suite notamment à la mise en place de la dématérialisation. Tout passe par ordinateur avec des erreurs. Si la personne commet une erreur quand elle enregistre son dossier, ben, on ne va pas la retrouver, etc. Et là, nous, on arrive à intervenir auprès de ces administrations qui ont mis des correspondants à notre disposition que la personne n'a pas, elle. Et là, on arrive à régler assez bien les problèmes. Pour le moment, c'est ce qui domine à 80% nos problèmes. Les discriminations, ça représente à peu près, je dirais, 10%, sachant que beaucoup de gens viennent nous voir pour une discrimination, mais quand on veut les engager dans un dossier, ils ne reviennent plus.
D'accord. Alors pourquoi ils ne reviennent plus ? Alors on peut imaginer que finalement, en y réfléchissant, c'était peut-être une interprétation de discrimination, mais pourquoi les gens ne reviendraient pas ?
Alors ça, il faudrait leur demander, parce qu'il faut qu'ils se mettent en avant. Faut qu'ils aillent dire, moi j'ai une discrimination, mais faut qu'on aille voir la personne mise en cause et la personne qui le met en cause. Et ça, souvent, ils hésitent.
Alors justement, lorsqu'un plaignant ou une personne fait une demande et que vous, vous intervenez, alors si on prend ces exemples-là, où vous êtes face à une autre personne et non pas une administration, quel pouvoir, entre guillemets, vous avez ? Est-ce que ce titre de délégué au défenseur des droits, qui n'est pas forcément connu de tous, est un titre officiel qui fait autorité ?
Alors, je dirais, je ne prendrai pas le mot autorité, mais il y a des obligations. Normalement, les gens qu'on consulte ou à qui on écrit sont tenus de nous répondre dans un délai de 2 mois. S'ils ne nous répondent pas dans un délai de 2 mois, on a 2 possibilités. On les rappelle, ça peut être un oubli, ou ils ne veulent pas tenir compte de notre demande. Et dans ce cas, nous, on transmet le dossier au défenseur des droits à Paris. Et c'est lui qui va prendre le dossier en main avec une structure beaucoup plus efficace, avec peut-être des avocats s'il faut prendre des avocats, etc.
Une de vos missions, on parlait de déontologie des services de l'État et on est en pleine période de manifestation, de gilets jaunes et qu'on entend à gauche, à droite, pour pas dire tous les jours, des personnes qui vont se plaindre de violences policières qu'ils auraient subies. J'imagine que ça, c'est aussi des demandes en hausse en ce moment.
Sur Saint-Étienne, on a eu très peu, on en a eu quelques-unes. On se contente de collecter la demande. On prend nom, prénom, ça s'est passé où, comment, les articles de presse, s'il y en a, parce que des fois il y en a dans la presse, et on passe le dossier à Paris. D'accord. Nous, on ne traite pas, on ne fait que l'intermédiaire. On monte le dossier et on l'envoie au défenseur des droits à Paris, qui lui voit avec les autorités compétentes les dispositions à prendre.
Alors ça peut aussi, c'est une information qui peut peut-être dire aux gens qui pourraient faire appel à vous, pourrait se dire, ça sert à rien finalement, on a une personne en direct en face de nous qui est déléguée au défenseur des droits et que finalement notre demande va être traitée par quelqu'un qui se retrouve très loin, un intermédiaire, quelqu'un interposé à où on va correspondre soit par courrier, soit par internet.
Pas du tout. Si vous voulez, la personne à Paris sera beaucoup... Nous, on est des généralistes. La personne à Paris, ça va être un spécialiste, un juriste, qui va être en communication avec nous. Il va nous dire, je voudrais l'adresse exacte de monsieur ou l'endroit où ça s'est passé, les coordonnées du service de police, etc. Nous, on sert d'intermédiaire pour transmettre les dossiers. Et lui va traiter avec les services et va nous informer des dispositions prises et informera en même temps l'intéressé. Quand on envoie la lettre à l'intéressé, d'abord, on leur donne un numéro spécial qui est donné par Paris. On reçoit un courrier nous disant, le dossier de monsieur Dupont, c'est telle référence. Et M. Dupont reçoit un courrier de Paris lui disant « Votre dossier a été enregistré ». Et ça, ça marche assez bien. Hein. C'est plus long, parce qu'évidemment, ils reçoivent des dossiers qui viennent de toute la France, mais ça se passe assez bien.
Alors, quelle est la difficulté lorsqu'on est délégué au défenseur des droits, finalement, de traiter un dossier, de rencontrer la personne, d'analyser ses soucis ? Et puis, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, à un moment donné, vous allez passer la main. Et à ce moment-là, la personne en face de vous qui a fait la démarche de venir vous voir, comment elle le prend et comment on lui explique que le chemin est terminé avec le défenseur des droits ?
C'est nous qui lui disons, en lui disant, compte tenu de votre dossier, de votre demande particulière, je suis obligé de la transmettre à Paris. Elle peut nous dire, je veux pas. Dans ce cas, on bloque le dossier. Et dans tous les cas, il faut savoir que tous les dossiers qu'on a, et même ceux qui restent chez nous, sont enregistrés à Paris. Tous les dossiers qu'on a, on les passe par ordinateur, c'est enregistré à Paris, et ils savent combien on a traité de dossiers, ils ont tous les éléments. Donc ça ne pose pas de problème. Après, si la personne ne veut pas qu'on monte le dossier à Paris, c'est à elle de décider. Mais la plupart des cas se passent relativement bien. Hein.
Alors, pour vous contacter, donc c'est ici à la préfecture, vous êtes bénévole ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou...
On est bénévole, oui, mais on a une indemnité de fonction pour les frais qu'on engage. Exemple, moi j'interviens à la prison une fois ou deux par semaine, j'y vais avec ma voiture, je mets mon essence, etc. Je touche une indemnité de frais, de remboursement de frais.
Donc ici, les interventions aussi en prison, enfin en centre pénitentiaire pour celui de la Talaudière, pourquoi le défenseur des droits y intervient ?
Parce que le détenu a les mêmes droits que vous et moi.
Mais peut-être moins d'informations.
Non, mais il faut bien voir que le détenu, quand il est en prison, il va être coupé de tout. Il va être coupé, il y a des dispositions, alors déjà la réglementation est compliquée. Et je vais prendre un exemple, un détenu qui touche l'allocation adulte handicapé. Il touche, mettons, on va dire 800 euros par mois. Il rentre en prison. Il faut savoir qu'au bout de 2 mois, cette allocation est réduite, 2 mois de détention, est réduite à 30%. C'est-à-dire, au lieu de toucher 800 euros, il touche que 30%. Donc, c'est un problème, ça. Faut le gérer, etc. Et il arrive aussi un problème que l'administration qui gère oublie de lui appliquer les 30%. Et pendant un certain temps, par une erreur administrative, le détenu va toucher 100% de son allocation adulte handicapé. Et là, au bout de 6 mois, 1 an, on va lui demander de rembourser. Alors, quand vous êtes en détention, qu'il faut rembourser, c'est pas évident. Et puis, il faut qu'il continue à payer son eau, son gaz, son électricité, son logement. C'est là la difficulté des détenus.
Maintenant, vous, alors je ne sais pas si vous avez le droit de répondre à cette question-là, mais comment vous êtes vu par les administrations que vous allez contacter? Comment est vu le défenseur des droits? Est-ce qu'il est vu comme un collaborateur qui va pointer du doigt une erreur, essayer de la régler? Est-ce qu'il est vu comme quelqu'un qui va, entre guillemets, chercher, fouiller? Dites-nous.
Alors, au niveau des délégués, on est très bien vu, parce que les administrations ont compris à quoi on servait, et j'en veux pour preuve, c'est qu'ils ont mis dans chaque administration importante, la CAF, la CPM, les caisses de retraite, ils ont mis des médiateurs. Avec qui on traite? Ce matin, j'ai eu des problèmes à la prison, j'ai eu tout à l'heure la médiatrice de la CAF, avec laquelle j'ai réglé le problème. Donc là, c'est intéressant. Après, quand on passe dans les niveaux un peu plus élevés, au niveau du défenseur des droits à Paris, parfois, il fait des remarques ou il fait des dispositions qui sont mal perçues. On dit, mais de quoi il s'occupe de ça, etc. Alors que c'est toujours dans l'intérêt du citoyen lambda. Aujourd'hui, le défenseur des droits a pris des positions très strictes contre la dématérialisation. Alors évidemment que tous les services, les grands services administratifs qui décident de la dématérialisation, ils ne voient pas le problème sur le terrain. Et nous, l'intérêt, c'est qu'on fait remonter le problème.
Alors, on fait remonter le problème et puis, dans l'absolu, les administrations vont corriger ça. Est-ce que vous avez des comptes à rendre à Monsieur Toubon? Est-ce qu'il y a des bilans annuels que vous faites remonter et peut-être des réunions où vous allez partager entre différents délégués du défenseur des droits?
Alors, déjà, on est regroupé en région. Nous, les délégués de la Loire, on dépend de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on se réunit tous les 3 mois. On fait des réunions pour dire, moi, j'ai tel problème, j'ai telle chose qui ne va pas. Ensuite, tous les ans ou 2 fois par an, les délégués sont réunis à Paris pour une sorte de collégiale, où là, donc, on va dire, c'est une grande réunion. Le défenseur des droits, M. Jacques Toubon, nous donne ses grandes orientations. On peut faire remonter nos problèmes. Et quand on a un problème particulier, on fait ce qu'on appelle un dossier significatif, qu'on va envoyer à Paris. Un truc très particulier, on estime que c'est quand même assez rare, sans le faire remonter à Paris, et Paris va s'en servir d'exemple. Ce qu'on appelle les cas significatifs.
Au niveau de la formation, puisque les administrations changent leur méthode de travail, d'accueil des usagers, les lois changent, est-ce que vous avez des remises à niveau
Voilà, alors il y a une formation permanente à Paris, il y a un service formation, où on peut aller s'inscrire aux formations qu'on souhaite. Alors c'est sûr que le délégué qui démarre, il fait 2 semaines de formation en 2 fois une semaine, où il va apprendre ce que c'est le rôle du délégué, comment faire, etc. Et puis après on peut se spécialiser. Je vais prendre un exemple, moi je viens de Paris la semaine passée, où j'ai été suivre une formation sur le droit funéraire. Alors tout le monde va vous dire le droit funéraire, mais eh bien c'est vachement intéressant. Parce qu'on découvre aujourd'hui que tous les gens, vous et moi, on n'est pas du tout au courant des dispositions funéraires, compris vos grands-parents ou vos parents, il y a 20 ou 30 ans. Et quand on va soulever le problème, on va découvrir qu'il aurait fallu faire ceci, cela avant ou pas.
D'accord. Alors, on va laisser de côté le droit funéraire. On va terminer par peut-être ces informations pratiques. Lorsqu'on vous appelle pour un rendez-vous, il faut considérer quel délai?
Actuellement, pas plus de 15 jours. Même une semaine, oui. Le cahier des rendez-vous est plein, je crois, jusqu'à la fin du mois, mais c'est tout.
Si l'on imagine des problèmes de mobilité pour des personnes qui habitent très loin de la préfecture, est-ce qu'on imagine des dispositions où le défenseur des droits, le délégué peut se déplacer?
Alors, actuellement, donc, on fait des permanences à la préfecture. à la Maison de la Justice et du Droit. Et c'est pour ça qu'on envisage un troisième poste de délégué qui serait mis dans la vallée du Gier et sur Firminy, Chambon-Faugerolles, pour éviter que des gens viennent à Saint-Étienne pour un entretien d'un quart d'heure, quoi. C'est en pourparlers, hein. Ça devrait se faire d'ici, on espère, le mois de juin ou la fin de l'année.
Quel conseil vous donneriez aux gens ? J'imagine que cette démarche, c'est une démarche qui doit être réfléchie, qu'il ne faut pas vous appeler pour tout et n'importe quoi. Mais on va dire, quelle est la réflexion première à avoir avant de faire appel à vous ?
Alors, la réflexion première, c'est de contacter le service ou l'administration avec laquelle il y a un problème. Et si possible, le contacter par mail ou par courrier. Aujourd'hui, malheureusement, on utilise le téléphone, mais le téléphone n'a aucune valeur. On n'a pas de preuves. Et la deuxième chose, c'est de garder des dossiers. Aujourd'hui, on est dans un système où la jeunesse qui arrive n'a pas pris l'habitude d'archiver les dossiers. Ils envoient l'original. On leur demande l'original, ils l'envoient, mais ils ne font pas une copie. Alors qu'il faudrait faire une copie.
Merci.